Donc j'ai beaucoup utilisé la lime. Et si vous me permettez, tout à l'heure, je peux vous réciter le sonnet que j'ai composé donc sur la lime. Vous voyez, ça s'appelle la lime enchantée. Certains, plus célèbres que moi, ont écrit des opéras, la flûte enchantée. Moi, c'est la lime enchantée. La lime enchantée. Je passe et je repasse. Je ne suis que ta lime. Ta main gauche m'appuie. Ta main droite me pousse. Je suis plate, parfois ronde, mais je peux être douce sur la pièce d'acier sur laquelle tu trimes. Tu m'entends. Tu me parles. Parfois tu me maudis. La pièce dans l'étau est une queue d'aronde. Tu fais tout ton possible, sans perdre une seconde, pour toujours limer plat et non pas arrondi. Tu contrôles la cote sur ton pied à coulisse et poses ton équerre, c'est ton autre complice. Mille retouches tu feras, mais devras patienter. Centième après centième, j'ai approché la cote et réduit en limaille l'acier que je grignote. Ton essai est fini et je suis enchanté.
La grande maison. Histoire d'Arsouille. À retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci.
La semaine dernière, nous entamions une série de 2 épisodes consacrés à Noël Jacopin, ancien de l'Arsenal et auteur d'un livre intitulé Apprenti toute la vie. Arpète à l'Arsenal de Brest de 1962 à 1965, publié aux éditions Récits. Le premier épisode était consacré à l'histoire de cette école des apprentis, à son fonctionnement, ses épreuves de sélection et son programme d'apprentissage. Ce second et dernier épisode se concentrera, lui, sur l'ascenseur social que permettait cette école d'apprentissage et sur l'importance de la transmission de savoir chez les anciens apprentis.
Du coup, pour revenir sur votre livre, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce titre, Apprenti toute la vie?
Oui.
Pourquoi toute la vie?
Apprenti toute la vie, effectivement. J'ai eu un peu de difficulté à trouver ce titre-là. L'éditeur n'était pas d'accord, il fallait un titre qui soit porteur de vente. Mais moi, j'étais pas d'accord avec lui. Moi, je voulais un titre qui reflète un petit peu ma façon de voir les choses. Je peux déjà dire que être apprenti toute la vie, plus qu'une leçon de modestie, c'est une façon de s'affirmer et de se comporter en curieux. L'apprentissage de tous les jours ne finit jamais. J'ai été effectivement apprenti, j'ai appris la lime, la mécanique, le tournage, j'ai appris des démontages des moteurs, mais ensuite, bon, j'ai exercé dans un bureau. J'ai été cadre dans les moteurs diesel, je dirigeais des équipes, j'étais chargé des informations confidentielles, la protection des informations, de la protection du secret. À Dakar, j'étais chargé donc avec des camarades, vraiment des bons amis sénégalais, d'essayer de faire marcher un petit peu mieux le chantier, savoir comment il fallait faire, comment améliorer un petit peu la productivité, et tout ça dans une excellente ambiance. Mais je vais vous expliquer un tout petit peu quand même ça. Un jour, à l'école préparatoire, j'avais eu un devoir de français. Devoir de français, il fallait faire 4-5 pages sur un texte qui était très très court. Mon fils, vos classes sont finies, vos études commencent. Il s'agit du chancelier d'Aguesso à son enfant après le collège. Et j'ai réfléchi à cela. Je l'ai oublié. Et ce n'est que lorsque j'ai écrit ce livre-là. Donc...
Cette citation correspond bien à ma façon de voir les choses au quotidien. Je serais un apprenti toute la vie, me remettant chaque matin en question pour essayer de compléter mes connaissances dans la journée afin d'être plus utile, voire un peu moins ignorant le soir, même à la retraite. C'est la raison du titre de cet ouvrage. La destinée est un peu comme une bouteille que l'on jette à la mer. On connaît toujours son point de départ, mais jamais celui d'arrivée. Apprenti vient du mot latin appréhendere, c'est-à-dire apprendre, saisir. apprenti, on l'est dans les faits et gestes et dans sa tête. Mais on n'a jamais fini d'apprendre. On peut avoir des doutes et des incertitudes sur son avenir, pas toujours bien anticipées, et on a le droit de se tromper, mais il sera toujours possible de recommencer par une formation adaptée. L'apprentissage en mécanique nous révèle les bases de la conception des systèmes, leur fabrication, leur entretien et les défaillances éventuelles. Il ne s'arrête pas à la sortie de l'école, car les connaissances initiales se complètent par l'expérience et le perfectionnement. Ce sera toujours une dualité entre l'abstrait et le concret, la réflexion et la matière, le cerveau et la main. Je poursuis même que c'est la première fois de ma vie que l'on me tend un micro dans un endroit fort agréable, mais où, bon, je suis un petit peu pris au dépourvu par les questions que je ne connais pas, mais c'est une excellente expérience. C'était riche pour moi d'essayer de me dominer, d'écouter la personne qui pose les questions et de l'enregistrer et d'essayer d'y répondre. Donc je suis un apprenti de la radio, effectivement. Mais c'est un bon apprentissage. Je poursuis un petit peu. La destinée est un peu comme une...
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep.
Apprenti ou arpète naguère, ces mots étaient porteurs d'espoir pour les familles peu fortunées des villes comme Brest, Lorient, Ruel et Cherbourg, ou encore Toulon et Adrette. Dans ces cités à forte proportion ouvrière, on trouvait ce qu'on appelait un arsenal. Chacune de ces DCAN, ou ECAN, c'est le nom exact de l'entité industrielle installée dans l'arsenal, disposait en effet d'un centre de formation, une école de formation technique, un EFT. En ces temps où l'éducation nationale n'amenait que 10% d'une tranche d'âge jusqu'au baccalauréat. Aussi, un organisme qui donnait un métier, un emploi et souvent une carrière à son gamin était du pain béni pour les familles. Ne croyez pas qu'il était facile d'entrer en EFP. Non, l'épreuve était un concours et si beaucoup participaient, peu étaient élus. Ensuite, une formation adaptée, dispensée par des techniciens pour la pratique et des professeurs pour les épreuves théoriques, façonnait d'excellents ouvriers. Le matelotage, c'est-à-dire l'association du jeune avec un ancien dans les premières années de travail, complétait la formation. Tout au long de ma carrière, dans les postes les plus divers, j'ai apprécié le savoir-faire tout autant que le savoir-vivre de nos ouvriers. En tant que directeur de cette entreprise, qui à l'époque comprenait 30 000 personnes, j'ai compris et constaté que la force essentielle de la DCN résidait dans le savoir-faire de son personnel. Et, d'autant plus, que du nid des EFT et grâce à un remarquable ascenseur social basé sur la formation, sortaient des techniciens, des ingénieurs maison et même des cadres dirigeants de premier ordre. Quelle entreprise pouvait se targuer d'avoir un de ses plus hauts cadres dirigeants muni du seul certificat d'études délivré par l'éducation nationale, mais qui se hissait au plus haut niveau grâce au cursus interne de formation? Et je n'oublie pas que ces EFT ont fourni des dirigeants syndicaux ou politiques d'excellent niveau au tissu local. Enfin, j'ai un souvenir ému des jeunes malgaches ou sénégalais qui, formés dans nos EFT, ont été le tissu des techniciens de leur pays. Aujourd'hui, les temps ont changé, les méthodes aussi. Mais on ne peut que se réjouir de voir ressurgir la formation par l'apprentissage sous d'autres formes. Désormais, les EFT ont fermé, il reste le souvenir. D'abord, celui d'une jeunesse, puis des copains, et enfin, tout un rituel de langage, d'habitude, que Noël Jacopin rappelle avec brio. Je remercie encore au passage Jacques Grossi d'avoir fait cette pressage. Jacques Grossi a été directeur de tous les arsenaux, directeur de tous les DCAN, et il était également directeur adjoint à Brest et ingénieur général de l'armement. Et il l'a eu, m'a donné la joie, et il m'a de faire donc la préface. Alors maintenant, je vais répondre à la question d'où sortait. C'était la question. D'où sortaient les personnes? Ils sortaient de tous les niveaux. Tous les niveaux. Auparavant, avant le Sacré-Cœur, j'étais allé au collège où j'avais appris le latin. J'aimais bien le latin aussi. Bon, mais j'ai retrouvé ensuite deux ou trois personnes qui, après avoir fait des études au collège, ont intégré l'arsenal. Mon adjoint lui-même, adjoint dans le poste de chef du bureau de sécurité, était un ancien du collège Saint-François. Son père avait été maire à Trégarantec et lui, ensuite, il avait choisi cette fonction, cette filière-là. Ça sortait de tous les côtés. Mais plus quand même, je dois dire, des écoles
techniques comme Guisseny, des écoles comme Landerneau, les écoles Saint-Jean de Landerneau, des écoles quand même, et des écoles à Brest qui préparaient le concours de l'Arsenal, parce que le concours de l'Arsenal se préparait, effectivement. C'est pas parce que quelqu'un avait un fort niveau dans une école secondaire que forcément il allait être reçu au concours de l'Arsenal, parce qu'il fallait donc avoir quelques petites notions de dessin, beaucoup de géométrie, la géométrie descriptive, l'algèbre, oui, toutes des notions là qui étaient présentes au concours et qui ont été présentes après pendant toute la durée des études. Pour ça que peut-être les littéraires avaient peut-être moins de chance, mais pour cela, il y avait d'autres filières. C'était secrétaire administratif, officier d'administration, une autre filière, plus basée donc sur le français, sur la philosophie, plus sur les matières littéraires que les matières scientifiques. Tout le monde avait sa place à l'Arsenal.
En 1979, un poste de chef de chantier se libère à la DCAN de Dakar, au Sénégal. Noël Jacobin postule et obtient le poste. L'ancien apprenti y passe 4 ans à transmettre aux équipes sur place l'enseignement qu'il avait su cultiver depuis les arpètes du plateau de Quélyverzan.
Une de mes plus belles transmissions de savoir était Dakar. Et je vais vous lire un petit peu donc mon chapitre, parce qu'il fait l'objet d'un petit chapitre qui est le parcours professionnel à Dakar. Vous voyez comment mon parcours professionnel à Dakar, bon, il y a le parcours professionnel un petit peu partout, mais Dakar. À Dakar, c'est la conclusion un petit peu là de mon séjour, donc de 4 ans et demi à Dakar. Je l'ai intitulé « Au revoir, mes amis ». Quatre manières d'être des Sénégalais m'ont profondément marqué durant cette période. D'abord, l'immense richesse culturelle de ce peuple de Dakar, grande ville, ou plus petit village de Brousse. Il suffit d'aller au-devant d'eux. Ensuite, une erreur. La culture industrielle que nous voulons à tout prix leur inculquer ou leur donner n'est pas toujours celle qu'ils souhaitent recevoir. Il faut les écouter davantage et les comprendre, car les possibilités de cette nation responsable sont immenses, et notre aide doit répondre exactement à leurs besoins et souhaits. Pas au nôtre. La troisième est leur grande ingéniosité et habileté au travail et en dehors. Le recyclage est plus qu'une nécessité, il est une façon de vivre. Rien n'est jamais perdu. Tout peut resservir. Cette affectation m'a fait connaître et aimer l'Afrique, où je n'ai laissé que des frères sénégalais et africains des nations ouest proches. Au revoir, mes amis. Mangidem Samayarit. En wolof. Au revoir, mes amis, et je le dis en wolof. Mangidem Samaksarit. Et Nagadef, ça veut dire merci.
Il y a du coup, durant cette expérience, ce que vous aviez. Est-ce qu'il y a en vous le désir de, un peu de faire vivre ce que vous aviez pu vivre vous-même aux apprentis? Entre 62 et 65, il y a cette envie de transmettre et de permettre aussi, de, à un moment donné, une élévation sociale ou par le savoir.
Tout à fait. Cette élévation-là, je l'ai eue le premier jour de mon arrivée. Premier jour de mon arrivée. Voilà. Mon premier jour dans la base navale sénégalaise, dans laquelle opère la DCAN de Dakar, est marqué par un petit incident. Le premier jour, la première heure. Passant la porte d'accès à 7 heures, tapant pour prendre mon service, je suis interpellé par un gendarme sénégalais qui me crie « Vous là, Toubab !» Toubab, c'est donc le blanc, ce n'est pas péjoratif, le blanc, donc... en wolof, le blanc qui habite la ville de Dakar, qui habite le Sénégal. Vous là-bas, Toubab, on ne vous a jamais appris à respecter les couleurs? Sans voix, inquiet, j'ose une réponse. Excusez-moi, monsieur le gendarme, c'est mon premier jour, je n'ai rien vu. Garde à vous! Je me mets au garde à vous. Ne bougez plus. Attendez et regardez. L'explication. À 7 heures, pendant 30 secondes, une sirène accompagne la levée des couleurs à l'entrée de la base navale où je vais exercer. toute personne proche de la porte doit immédiatement se mettre au garde à vous jusqu'à la fin du cérémonial. J'ai compris et même apprécié cette leçon de civisme à laquelle je n'ai jamais plus failli durant mon séjour. J'ai même appris dès ce premier jour la devise de la marine sénégalaise « En mer, pour la patrie ». Et donc j'allais travailler sur la flotte sénégalaise. Et le mot « Toubab » signifie « Européen blanc ». Alors, c'était profondément marqué. Ils m'ont donné une bonne leçon. Je vais leur donner des leçons également. Et donc, on demandait des volontaires pour des cours de physique. On demandait des volontaires pour des cours de dessin. Et pour le français également, donc un petit peu la grammaire française, le vocabulaire, enfin des mots comme ça. Et je me suis porté volontaire donc pendant les 4 années pour donner des cours. Mais ce qui m'a le plus plu, c'est leur faculté d'apprendre, de vouloir apprendre, de vouloir progresser, de travailler. Travailler le dessin, travailler, donc j'étais tranquille. Je leur donnais des devoirs à faire donc le soir. Et je suis certain que les devoirs allaient être bien faits. Sauf un jour, il me manquait, bon, c'était un camarade sénégalais, son nom c'était Diop. Mais où il est Diop? Où il est Diop? Oh, vous savez pas? Eh bien, Diop est mort. En 2 jours, cette personne que j'avais vue à mon cours, il avait eu mal au ventre, il avait quelque chose comme ça, et il était mort. Vous voyez? Et là, ça m'a beaucoup marqué également, de voir un bon élève, et 2 jours après, ben, il est mort. Et puis ses camarades, voyez ça comme une fatalité. La mort est une fatalité chez eux, mais bon, ça m'a donné beaucoup de chagrin quand même, parce que c'était dans mes élèves. Et ça, c'est donc les cours donc de tiers, et leur expliquer après sur les chantiers, leur expliquer nos méthodes de travail, mais surtout, il faut les écouter, pas inculquer nos méthodes, voir comment ils travaillent, voir comment, effectivement, améliorer, parce que j'avais formé un alter ego qui, normalement, m'a remplacé à mon départ. Et il était à même, il s'appelle Diop aussi celui-là, beaucoup s'appelaient Diop et Lo, et ce Diop-là m'a remplacé, et je suis certain qu'il m'a remplacé, et qu'il a un petit peu à ça, avec ses méthodes, et un petit peu avec les notes, en ce que chacune avait de meilleur. Mais surtout, ne pas les brusquer, ne pas absolument vouloir leur dire de faire et leur donner des ordres. Surtout pas ça. Mais je suis tout à fait attentif à une autre question.
Eh bien du coup, cette question-là va pouvoir conclure notre interview. Et ça sera, quels ont été à la fois votre meilleur et votre pire souvenir de l'Arsenal. Et peut-être de votre passage aux Arpètes.
On va commencer par les meilleurs souvenirs. Hein. Ils seront brefs, mes meilleurs souvenirs, et mon pire souvenir sera bref aussi. Parce que je dois quand même préciser que toutes ces années d'apprentissage-là, toutes les années, les 3 années, bon, ça a été une période très intéressante, très instructive pour moi. Et que finalement, avec le temps après, donc, j'ai quand même pensé que j'étais parmi les privilégiés et que j'avais tort de me plaindre, même si parfois, bon, j'aurais pu le faire. Hein. Bon. Le meilleur souvenir, je ne l'ai pas encadré, mais ça a été de toucher, de recevoir, de prendre ma première paye. Non seulement la scolarité est gratuite, mais notre contrat d'apprentissage prévoit une petite rémunération mensuelle, comme tout à l'heure, je l'ai dit. À la fin du mois, je suis fier de toucher, comme on dit, ma paye. 50 francs en première année, 150 en deuxième et un peu plus, 200 en troisième. À la fin de chaque trimestre, elle peut être enjolivée d'une gratification pour bons résultats à l'école ou à l'atelier. Ces jours argentés, la sirène sonne un quart d'heure plus tôt, ce qui nous permet d'arroser d'une limonade grenadine ce pactole destiné à ma mère qui me gratifie d'une toute petite partie. Mais après, l'âpreté de la semaine, le samedi et le dimanche viennent adoucir un peu notre existence. C'est la semaine anglaise, le week-end. C'est mon meilleur souvenir, mais mon deuxième meilleur souvenir. Vous allez le savoir pourquoi. C'est celui qui vient après. Mais je vais dire le pire souvenir. Le pire souvenir, c'est l'hiver. L'hiver, parfois il neige, il y a du verglas. Je suis réveillé à 6 heures du matin. Ma mère vient frapper à la porte là, disant « c'est l'heure ». Bon, vite fait de prendre le petit déjeuner, de m'habiller très très vite comme je pouvais et d'aller prendre le car par le froid, la température basse, à 7 heures moins le quart, de courir et de me retrouver dans le car à cette heure-là. C'était vraiment fatigué de la veille parce qu'il y avait des devoirs à faire. J'arrivais, il faut dire, tous les soirs, simplement à 7 heures du soir, donc à 19 heures. La journée était courte et j'arrivais dans un car, alors là, mauvais souvenir encore, un car enfumé de tabac. On voyait à peine, il fallait écarter comme ça, c'est peut-être là que j'ai pu fumer. Donc vous voyez, ça, c'est mon pire souvenir, ça, le froid, le tabac. Là, j'aurais pu me retrouver dans ce car qui m'amenait à Brest, là, c'est un pire souvenir. Mais bon, c'était surtout dû à l'heure. Et la fatigue qui s'accumulait quand même. J'étais un petit peu fatigué, mais bon, breton, ça résiste à tout, même au froid et au travail. Et mon deuxième meilleur souvenir est lié un petit peu à cela, c'est le week-end. Mais vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas s'imaginer par rapport au week-end maintenant, bon, le week-end d'un retraité, bon, je parle de week-end quand même, mais je pourrais parler de vacances qui durent toute l'année, hein. Mais le week-end quand même, bon, il y a le samedi et le dimanche, on a quand même un petit cérémonial le samedi, le dimanche, mais le week-end à cette époque-là, tellement beau ce week-end-là que j'en ai fait un petit chapitre. Quel bonheur de rester 2 jours à la maison, pas de lever. Je le mets à 6h15, ma mère venait frapper à 6h, mais presque à 6h15, j'étais toujours au lit, ni de retour à 19h. C'est peu de choses peut-être, mais ce que j'apprécie le plus les samedis et dimanches, ce sont ces petites heures supplémentaires de couette. Je laisse le réveil à la même heure, afin de profiter à demi éveillé de cette liberté. Le réveil sonnait à 6 heures et je restais, j'avais le droit de rester. J'étais pas obligé de me lever. Oh, bien sûr, il y a les leçons, les révisions et quelques devoirs. Mais je l'ai fait en toute liberté et sans pression. Je me souviens toujours de ces 5 jours de la semaine qui modulent avec humour notre morale d'apprenti et le mien. Le lundi, c'est... Oh, ça va comme un lundi. C'est-à-dire, pas du tout. Mais le mardi, ça va déjà un peu moins mal. Le mercredi à midi, on se dit que la semaine est d'équerre. Terme employé par tout le monde à l'Arsenal. La semaine est d'équerre. En effet, la pente de montée des jours s'incline à midi vers la descente et le moral revient peu à peu. Le jeudi, on se dit « demain, c'est vendredi ». La forme est revenue et tout va pour le mieux. Quant au vendredi, on se dit simplement « aujourd'hui, c'est vendredi ». Ce qui veut tout dire. Joyeux, on répète à l'envi, vivement ce soir qu'on dorme toute la nuit, car nous avons bien hâte de voir la fin de la semaine. Et enfin, c'est ce soir. Le week-end que l'on essaye de freiner des deux pieds se passe à merveille. Et le lundi matin, tout recommence. Les semaines se suivent, toutes différentes, car l'ennui n'entre pas dans notre vocabulaire. Et le temps, malgré tout, passe vite. Il passe trop vite, même. Voilà le meilleur, le bon, le moins bon et le pire souvenir. Mais tout est lié. En fait, j'ai un petit peu menti, je ne garde de ces années d'apprentissage-là avec mes camarades, mes amis, tout ce que j'ai côtoyé, toutes les personnes de l'Arsenal, ils n'ont qu'un seul mot pour moi. Je les appelle tous mes camarades. Ce sont avant de dire amis, mes camarades. Et quand on a vécu Kellern, quand on a vécu les camps, quand on a vécu l'apprentissage, l'atelier, et certes, et même aussi les différents chantiers, tout le monde a le droit qu'on les appelle camarades.
La Grande Maison, une émission de Martin, Cause et Léouette, à retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nos baisers, le corps avec, et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours. Y a tout ça en raccourci.